Chapitre 23 High Life. J'arrive chez Monsieur Caumont, que je trouve dans son salon avec sa femme. Il m'accueille comme si j'avais 40 000 livres de rente. C'est la première fois que je suis si bien reçue et qu'on est si poli avec moi. Il me gêne presque. Je me crois obligée de lui avouer ma pauvreté. Monsieur Eudel vous a dit que je ne savais pas au juste quand je pourrais vous payer. Monsieur Caumont a l'air étonné au possible. J'insiste encore. Ah, cela se gâte. Monsieur Vintras, si vous parlez encore d'argent, nous nous fâchons. Qu'allons-nous vous faire, voyons? Une redingote? Une redingote? Monsieur Caumont est ahuri, Madame Caumont aussi. Ils se consultent des yeux. J'ai peur d'avoir été trop loin. J'aurais dû demander un pet en l'air. Je tâche de réparer ma maladresse et je fais des gestes qui me viennent à mi-fesse. Je me scie la fesse avec la main, avec de toutes petites basques. J'aime les basques courtes. Ce n'est pas vrai. J'aime les basques longues. C'est comme pour les têtes chez Turquet. Mais il faut moins de draps pour les basques courtes et on me fera plus facilement crédit si l'habit est taillé comme pour un nain. Monsieur et Madame Caumont poussent un cri, ils semblent délivrés d'un grand poids. Vous parlez d'une jaquette! Nous nous disions aussi, une redingote, c'est bon pour les gens de bureau et pour les vieux, mais pour un jeune homme comme vous, il vous faut quelque chose dans le genre de ceci. On me montre un vêtement qui attend sur une chaise et qui a une tournure élégante. Boutons mat, doublure de soie marron, nuance grise, d'un gris doux et vif comme de la poussière d'acier. On me donne le drap à choisir. Que c'est souple sous la main! Il me semble que je caresse et compte des billets de banque. Je joue le blasé. Et j'ai l'air de cligner de l'œil et de faire le connaisseur. À la fin, je me décide pour une étoffe très sombre. Je déteste le sombre, mais je me figure que je parais plus sérieux et par conséquent que je présente plus de garanties de solvabilité en choisissant des étoffes tristes. Je regrette de n'avoir pas mis des lunettes bleues. Voyons, décidément, vous voulez être de l'académie, dit Monsieur Caumont en souriant avec finesse. Mais il faut avoir 40 ans pour une étoffe comme celle-là. Autant vous prendre mesure d'un cercueil. Je fais fausse route. Vintras, tu fais fausse route. Tu vas rater ta pelure. Je saute dans l'éclatant et je prends une étoffe qui me fait mal aux yeux. Je la prends comme les chiens savants prennent la carte dont le jeu est allé à terre, du bout des dents, en regardant de côté et la queue entre les jambes si le maître est content. J'ai l'air d'un munito des rues qui sait qu'il lui en cuira de ramasser le neuf de carreau au lieu de la dame de trèfle. Si je commets encore un impair, il m'en cuira aussi. Monsieur Caumont regarde mon choix. Que va-t-il me dire? Oui, oui, mais ça date. Sa femme jette un coup d'œil et dit aussi « ça date ». Je fais comme eux et je dis « ça date ». Je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est un substantif ou un verbe, mais je ne veux pas avoir l'air d'un ignorant ni les contrarier. « Ça date peut-être un peu trop », répète-t-il. « Vous trouvez ?» Je dis « vous trouvez » comme un homme qui a eu sa hardiesse et qui n'en rougit pas, qui a ses idées à lui, son genre, sa crânerie. Je finis par choisir une étoffe qui ne date pas et qui ne me plaît pas, mais qui a l'air de plaire à Madame Caumont. C'est Madame Caumont qui m'inquiète. J'ai toujours vu pour les crédits qu'il fallait d'abord regarder la figure que faisait la femme. Cette étoffe lui va, ou bien il reste un coupon dont elle veut se débarrasser. Elle met une épingle sur l'échantillon. C'est entendu, j'aurai cette jaquette. Le pantalon et le gilet pareil, n'est-ce pas? Parfaitement. Maintenant, au par-dessus. J'ai peur de faire encore un four avec le par-dessus. Je renonce à regarder les échantillons, je déclare n'y connaître rien, je me rejette comme un homme fatigué dans l'excuse de ma vie sédentaire. Je vis dans les livres, je ne sors pas des livres. Voulez-vous choisir pour moi ? Nous ne le faisons jamais. Le client n'a ensuite qu'à être mécontent. Je comprends, mais je vous dis, l'habitude de penser. Ainsi, tenez, je pensais dans ce moment à une coutume romaine. Oui, les gens qui travaillent de tête, je sais. Monsieur et Madame Caumont ont l'air d'avoir pitié de mon cerveau et se décident à faire une exception en ma faveur. Ils me choisissent un pardessus. Vous viendrez essayer. Faut-il passer chez vous ? Passer chez moi ? Mais il n'y a pas moyen d'essayer chez moi. Il faut se mettre sur l'escalier pour enfiler ses bas et dedans on se renfonce la tête. Non, non, je viendrai. Je vous éviterai la peine. Il faut pourtant qu'on sache où je demeure. Je ne puis pas emporter mes effets dans de la lustrine quand ils seront finis, comme si j'allais rendre l'ouvrage en marchant les reins cassés comme un tailleur. Il ne m'a pas encore demandé mon adresse. Il m'a seulement demandé pour le moment mes habitudes comme pantalon. Je n'en ai pas de personnel. J'ai eu longtemps les habitudes de ma mère. Depuis, j'ai eu l'habitude d'acheter mes culottes toutes faites. Pour votre pantalon, comment voulez-vous le fond ? De même couleur, oh, de même couleur. Mes derniers pantalons étaient comme fond d'une nuance si différente du ventre et des jambes. De même couleur, je le demanderai à genoux. Ces cris allaient m'échapper comme une culotte trop large que j'ai failli laisser tomber une fois dans une maison, ayant oublié dans le feu de la conversation de la retenir en l'empoignant par le derrière. J'ai pu, Dieu merci, les étrangler dans ma poitrine. Vous ne dites pas pour le fond ? Ah, c'est vrai. Je fais l'homme qui revient de loin, je secoue ma tête avec fatigue. Monsieur Caumont insiste. Aimez-vous serrer la boucle en haut, la boucle en bas ? Je veux la boucle juste sur le ventre. Quand je n'aurai pas de quoi dîner, je serrerai un cran, deux crans. La boucle correspond au nombril, s'il vous plaît, monsieur Caumont. On passe à la jaquette. Quelle forme ont vos jaquettes d'ordinaire ? L'air d'un sac, généralement, d'un morceau de journal autour d'un os de gigot, d'une guenille autour d'un paquet de cannes. Voilà la forme de mes pardessus jusqu'ici. Mais à monsieur Caumont, je réponds, je n'ai jamais regardé la coupe de mes vêtements. Avec un sourire grave et en hochant la tête, c'est que je vis du travail de la pensée. Menteur, menteur, je vis de rien, d'un peu de saucisson ou d'un bout de roquefort, mais pas du travail de la pensée, ni de me pencher sur les livres. Ça me coûte tout de suite d'ailleurs, ça me fait comme une barre sur l'estomac quand les volumes sont un peu gros. Monsieur Caumont a pris mes mesures, puis ouvert un registre. L'orthographe de votre nom, s'il vous plaît. Vintra, sans G. J'ai peur de lui déplaire, il a peut-être l'horreur de la lettre G. Je consens un faux, je dénature le nom de mes pères. Oui, sans G. L'adresse ? Hôtel Brousset, rue d'Enfer, 52. Je ne demeure pas hôtel Brousset, rue d'Enfer, 52, mais je ne pouvais pas donner mon adresse à moi. J'ai donné celle d'un camarade qui paye 30 francs par mois. C'est un palais chez lui. C'est la première fois de ma vie que j'ai eu du sang-froid, que j'ai trouvé illico ce que j'allais dire. Le mensonge m'a donné de l'assurance. Monsieur Caumont connaît justement la maison. Celle qui a une statue du dieu des jardins dans la cour ? Oui, je n'ai jamais remarqué la statue. Je ne remarque pas les statues généralement. Mais je dis oui, à tout hasard, parce que la maison a l'air de plaire à monsieur Caumont. Vous aimez les arts, monsieur Vintra ? Beaucoup ! Il attendait plus, je le vois. J'ai répondu comme s'il m'avait interrogé sur un plat, des radis, des boulettes, du mou de veau. Je crois bon d'insister, de donner un peu plus de développement à ma pensée, et je répète d'un petit air échauffé, J'aime beaucoup les arts. Je suis habillée. On se charge aussi de me procurer un chapelier et un bottier. À chaque commande, j'ai un frisson. J'hésite à m'endetter. Mais les camarades m'y poussent. Tu végètes avec tes capacités. Quand tu pourras te présenter partout, tu gagneras de quoi te payer tes dettes et au-delà. Je me laisse aller. D'autant mieux que je grille d'être bardée de draps fins et chaussée de chevreaux. On me fait des compliments sur mon pied chez le bottier. Il paraît que je ne l'ai pas trop vilain. Je ne l'ai jamais su. Je n'ai encore usé que les bas de ma mère, ou bien je me suis chaussée à la fortune du pot, assis sous la paire, toujours forcée de rentrer le bout sous les doigts de pied ou de plier le talon comme une serviette, ce qui m'a fait plus d'une fois accuser de manquer de courage sous l'Odéon quand, après 127 tours, je me plaignais de pouvoir marcher. On accuse les gens de manquer de courage. On ne sait pas comment sont leurs chaussettes, si la main d'une mère n'a pas entassé les reprises qui font hernie ou tumeur dans le soulier. J'ai toujours eu du linge propre par bonheur. Je l'envoie à ma mère qui le blanchit, le raccommode et me le renvoie. Ça ne coûte rien de transport grâce à M. Truchet et M. Andrès des messageries. Mais toujours aussi, ce linge ressemble à de la peau de vieux soldat trop raccommodé et mal recousu. Le jour où j'essaie mes bottines, il y a des cris d'admiration. Je garde un moment l'ancien soulier à l'autre pied pour constater la différence. C'est celle du pied d'éléphant au pied de biche, du moignon à la griffe. Me voilà enfin armée de pied en cap, bien pris dans ma jaquette, les hanches serrées dans mon pantalon doublé d'une bande de beau cuir rouge, à l'aise dans ce drap souple. J'ai fait tailler ma barbe en pointe, ma cravate est lâche autour de mon cou couleur de cuir frais, mes manchettes illuminent de blanc ma main atteinte de citron, comme un papier de soie fait valoir une orange. « Savez-vous que vous avez l'air d'un mâle ?» dit une femme de camarade, de l'air d'un sauvage qui dit en apercevant un missionnaire entrelardé et se léchant les lèvres, « J'en mangerai !» Je tiens haut ma tête. C'est la première fois que je la relève ainsi depuis que je suis étudiant. Jusqu'à ce jour, je n'ai pas pu. Il fallait que je fusse un peu lancée. J'oubliais alors que j'avais à cacher le grain de ma cravate. Ma grande joie est de pouvoir maintenant penser à ce que je dis. J'ai pu penser en particulier quand j'étais seule dans mes chambres de 10 francs devant les murs des cours, mais je n'ai jamais pu penser à ce que je disais en public. J'avais à songer, pendant que je parlais, à ma culotte qui s'en allait, à mes habits que je sentais craquer. Il y avait à cacher mes déchirures et mes taches, mon linge sans bouton, mon derrière sans voile. Toujours sur le qui-vive, je monte la garde depuis le berceau, devant mon amour-propre en danger. Je veille, les ciseaux au poing, la ficelle à l'épaule, les pieds près de l'encrier, pour noircir mes chaussettes là où le soulier est fendu. Je m'évadais un moment de cette vie grotesque quand je revenais de Nantes, mais ma liberté fut gâtée dès le lendemain par l'horrible spectacle de la mouchardise impériale et de l'aplatissement public. Le cœur et le nez y sont faits maintenant, et l'on ne sent plus la mauvaise odeur qu'on a respirée des années. L'odorat s'est rallié. Je n'ai pas une douleur qui vienne me prendre à la gorge comme celle qui m'empoigna le lendemain de décembre dans mon premier vêtement neuf. Je me carre dans mes habits et me dresse sur le talon haut de mes bottines. Je garde mon chapeau sur ma tête comme un grand d'Espagne. Me voilà fière et libre de nouveau. Je ne rentre plus mes côtes ni mes ongles, je ne traîne plus les pieds, je ne mâche plus les mots, je n'avale plus mes colères ou mes rires, je ne marche plus sous l'Odéon comme les réclusionnaires dans la promenade en queue de cervelas au fond des lugubres centrales. Pour la première fois, je marche au milieu de la rue au risque d'être écrasée par les voitures. J'y marche. Je n'en ferai pas une habitude, c'est trop gênant. Mais j'ai été condamnée au rasage de murs trop longtemps. Il me faut cette sensation de la chaussée que je connais à peine. Je retournerai demain sur le trottoir où l'on verra reluire mes bottines. En attendant, j'aveugle les gens de l'entresol avec les éclairs de mon chapeau. Je passe sous tous les entresols où je vois des gens à la fenêtre. American Bar. Nous avons été promener nos beaux habits sur les boulevards. Il y a un bar américain près du passage Jouffroy où la mode est d'aller vers 4 heures. Des boursiers à diamants gros comme des châtaignes, des viveurs, des gens connus viennent là parader devant les belles filles qui versent les liqueurs couleur d'herbe, d'or et de sang. Il faut changer des billets de banque pour payer leur absinthe. Je ne déplais pas, paraît-il, à ces filles. Il a l'air d'un Terre-Neuve, a dit Maria la croqueuse. Je croyais que c'était une injure. Il paraît que non. Avant les habits communs, j'avais l'air d'un chien de berger, d'un caniche d'aveugle, d'un barbé crotté auquel on avait coupé la queue. Un homme vêtu de briques et de broc a l'air aussi bête qu'un chien à qui l'on a coupé la queue tout ras. Je paraissais avoir la maladie. On m'aurait offert du soufre. Maintenant, je suis un Terre-Neuve, un beau Terre-Neuve. Et pas bête, ajoutent quelques-uns en faisant allusion à mes audaces de conversation. Pas bête? Mais si demain j'avais de nouveau la redingote à la doublure déchirée, la cravate éraillée et tordue, le pantalon m'écartelant comme Ravaillac, si demain j'avais des chaussettes trop grosses dans des souliers percés, demain je serais de nouveau bête et laid, bête comme une oie, laid comme un singe? Vous ne savez donc pas de quoi j'ai eu l'air pendant 4 ans. Deux ou trois fats qui, par derrière, me blaguaient ou me calomniaient quand j'étais mal mis, sont arrivés caresser mes habits neufs. « Bas les pattes !» ai-je sifflé en leur fumant au visage. Je les ai traités comme des chiens. « Hein ! Vous voulez vous remettre avec Vintras ? Ce Vintras qu'on dit « distingué à sa façon » à présent ? Il faut rayer ça par des acceptations de blagues cruelles ou des menaces de gifles toutes prêtes. Je n'ai jamais eu l'envie de brutaliser un impertinent. Elle me prend. Je soufflais très bien un ganté du bout de mes gants neufs. Je vaux moins pourtant depuis que j'ai ces habits-là. Il a fallu mentir à mes habitudes d'honnêteté muette, démordre de mon entêtement à vivre de rien. Il a fallu dire adieu à mes résolutions de héros. J'en ai souffert dans un coin de mon cœur. Quelquefois, je trouvais une vanité d'orgueilleux à me jurer que j'irais ainsi mal vêtu jusqu'au jour où je forcerais la chance. Si je mourrais, je mettrais mon éloge dans mon testament en racontant ma vie et en fouettant de mes dernières guenilles les survivants qui devaient leurs habits. Moi, je ne devais rien. Pas même une paire de savates. Je vaux moins. J'ai dû jouer la comédie pour avoir mes vêtements, ces bottines et ce chapeau. Une comédie dont j'ai honte. Mes souliers percés étaient miens. Je pouvais les jeter à la tête du premier passant en disant « Tu es peut-être aussi honnête, mais tu n'es pas plus honnête que moi. » Un ruiné, je pouvais crier « Je te fais cadeau de l'empeigne. » Je crois que je gagnerai de quoi payer, cependant. Le Vintras est en hausse. « Il a mis de l'eau dans son vin, » dit l'un. « Il a jeté sa gourme, » dit l'autre. « J'avais toujours dit qu'il avait du bon, ce garçon-là, » fait un troisième. « Je n'ai pas mis d'eau dans mon vin. J'ai mis du vin dans mon eau. Je n'ai pas jeté ma gourme. J'ai jeté mes frusques. Tas de sceaux. Partout, je fais prime. » Je suis devenu un grand homme chez Joly. Je puis me pencher sans danger maintenant pour corriger les devoirs. Il y a une des mères, 30 ans, cheveux d'or, rire d'argent, qui a toujours quelque chose à me montrer sur le cahier de son fils et qui se penche aussi en appuyant le bout de ses seins sur mon épaule. Un matin, ma jaquette m'allait bien, paraît-il, dans le demi-jour qui baignait la classe de latin, Le corsage de la dame aux cheveux d'or luisait et sentait bon comme un gros bouquet. Sur un coin de cahier, elle avait en souriant dessiné une tête échevelée qui ressemblait fort à la mienne. Nos lèvres se sont rencontrées. Elle m'a présenté son mari l'autre soir. « L'enfant ferait-il des progrès en prenant des répétitions ?» me demande-t-il. « Beaucoup. » Je n'ai pas dit ce « beaucoup-là » comme j'ai dit le « beaucoup » à M. Caumont quand il m'a demandé à propos du Dieu des Jardins si j'aimais les arts. Mon « beaucoup » a été entraînant et passionné. M. Martel, le mari, voit déjà son fils traduisant les « verrines », ce qui serait bien utile pour son commerce, n'est-ce pas? Et il me demande mes prix. Jadis, j'aurais répondu 2 francs l'heure, 20 sous même, si j'avais eu le derrière sur les épingles. Je n'ai plus le derrière sur des épingles. Qu'on le sache, et qu'on se le tienne pour dit une bonne fois. Je n'ai plus le derrière sur des épingles. Aussi, je prends 5 francs l'heure. 5 francs l'heure? Entendu. Vous vous arrangerez avec la mère pour les jours et les heures. Encore un verre de champagne? Merci. J'ai beaucoup dîné en ville ces jours derniers et il a fallu sabler le Jackson. Le Jackson! J'ai voulu avoir l'air d'avoir une marque à moi que je préférais. J'ai vu Jackson sur une bouteille à goulot entourée de papier d'argent et j'ai dit « sabler le Jackson ». Monsieur Martel me regarde. Ce regard me suffit. J'ai lâché une bêtise. Je le vois du coup. Vous dites « Jackson », fait-il en ayant l'air de regarder si ma jaquette est de la belle jardinière. Pas « Jackson ». Je lui parle très durement, comme un homme qui a affaire à un imbécile et qui le relève du péché de sottise. Pas « Jackson ». Savez-vous l'anglais ? Non ? Ah ! Il ne sait pas l'anglais. Attends, va. Je n'ai pas dit Jackson, j'ai dit Jackson. Une marque anglaise, la grande marque des William Jackson. Je n'ai pas insisté sur l'aine, je ne suis pas de ceux qui disent Byron pour dire Lord Byron quand je suis avec un Français et ne veux pas en abuser. Je vous demande pardon. J'avais entendu Jackson, la marque à 2 000 francs la bouteille du poiré de champagne. Je ris comme d'un calembour fait entre marquis à la pomme de pin, mais il était temps. Mal habillée, je n'aurais pas trouvé Jackson et je n'aurais pas ri d'un rire de marquis, bien sûr. Je me lève de table, un peu éméchée, comme dirait la mère Mouton. Mais ma griserie consiste à croire que je descends d'une famille noble et je raconte, la jambe en l'air dans un fauteuil, une aventure arrivée à un de mes ancêtres qui ne voulait pas saluer le roi. Je n'oublie pas, malgré mes habits et ma griserie, mes opinions républicaines. L'un de mes ancêtres s'est trouvé avec un roi. Il a dû le saluer pourtant, car nous sommes une noblesse d'écurie. Du côté de mon père, on élevait les cochons. Dans ma lignée maternelle, on gardait les vaches. Nous portons le pied de cochon sur queue de vache avec une tête de veau dans le fond de l'écusson. Je donne mes répétitions à 5 francs l'heure. Monsieur Caumont a déclaré qu'il me fallait un habit du matin. J'ai toujours vu le matin représenté en jaune clair ou en bleu pâle dans les ballets et dans les pièces de verre. Vais-je être en matin de pièces de verre ou de féerie? Aurais-je des gouttes de rosée? M'en trouverais-je de quelque part au soleil levant? Non, j'ai un vêtement dont M. Caumont lui-même est enchanté, qui est du matin au possible. Oh, mais comme c'est du matin! M. Caumont ajoute que c'est un vêtement de 9 heures à midi, pas avant 9 heures, pas après-midi. Je le garde pourtant jusqu'à 1 heure, 2 heures même quelquefois, car ma leçon va jusque-là. Ma leçon, c'est-à-dire la correction des cahiers de l'enfant, qu'on éloigne. On entr'ouvre un grand peignoir à raies bleues bordée de dentelles fines et qui moule un corps de statue.